Bonjour à tous, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlaico.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus, afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Le transport aérien fait bien sûr partie des secteurs économiques les plus impactés par l'épidémie, François.
Oui, c'est sûr. Alors, au début décembre, on estime que la baisse de trafic serait de l'ordre de 75% environ. C'est considérable, c'est sans précédent. Et en fait, quand on s'approche, d'ailleurs, on voit que il y a même au sein du car restant une grosse redistribution parce que l'essentiel est dévoué au trafic intérieur. En fait, les longs courriers, eux, sont limités à 10% de ce qu'ils étaient l'année dernière. Il faut se souvenir que jusqu'à début 2020, à chaque moment de la journée, il y avait 10 000 avions en vol autour de la planète avec 1 million de terriens qui voyageaient. Et on est aujourd'hui probablement au dixième de ces nombres-là. Le patron de Lufthansa a d'ailleurs trouvé une formule pour caractériser ce crack spectaculaire. Il a dit, voilà, l'aviation a connu en 65 jours, la destruction de 65 ans de croissance. C'est vrai que ça donne la mesure de cette extraordinaire descente qu'a connue l'aviation. À quand la reprise? Ça fait l'objet de pronostics très différents suivant les sources. La plupart estiment que ça n'interviendra pas, au moins qu'on ne retrouvera pas le niveau d'avant, avant 2023, voire 2024. Certains disent même 2025 et les plus pessimistes, 2029. Et il faut se souvenir d'ailleurs que il a fallu 7 ans pour retrouver le niveau de 2007 après la crise de 2008-2009. Donc c'est long, c'est ce qu'on appelle l'encoche. Malgré tout, même si les technologies sont là, c'est très long pour retrouver le rythme qui précédait. Un signe encourageant quand même, c'est que le trafic en Chine, le pays qui a complètement maîtrisé l'épidémie, a retrouvé, lui, au plan intérieur et au plan intérieur seulement, son niveau d'avant la crise. En revanche, pour les longs courriers, bien sûr, comme les frontières sont largement fermées, c'est très différent.
Mais alors, est-ce que la propension des terriens à voyager va s'en trouver changée? Parce que finalement, les humains, ils ont toujours bougé. Alors, pas seulement en avion, hein, aussi à cheval, par tous les moyens de transport. Est-ce que ça va fondamentalement changer aujourd'hui?
Oui, c'est vrai que c'est la question clé. Et vous avez raison, la propension à se déplacer a toujours progressé avec la croissance. Hein. Plus la croissance se développait et plus les humains avaient besoin d'échanger, de se rencontrer. Et on a vu ça de façon spectaculaire dans les 30 dernières années avec la mondialisation. Aujourd'hui, bien sûr, pour le secteur de l'aviation, c'est une question clé. Quel sera demain l'appétit de voyage et la nécessité du voyage? On voit apparaître plusieurs choses. D'abord dans les entreprises. On s'est rendu compte au moment du confinement qu'on peut faire la même chose en voyageant beaucoup moins. Hein, avec ces fameux outils de mise en relation à distance, les outils numériques, ces Zoom, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'en retienne pas quelque chose dans le fonctionnement habituel.
D'autant que les patrons eux-mêmes disent que finalement ils avaient plus de temps pour travailler.
Beaucoup plus. Certains disent, mais qu'est-ce que je faisais auparavant? J'étais dans les avions tout le temps et je perdais du temps, quoi. Et ils se rendent compte qu'il y a des moments où il faut absolument être là. C'est une fois par an pour voir le réseau, évidemment pour signer les contrats ou pour les préparer, convaincre un client. Mais qu'il y a tout un tas de réunions habituelles qui peuvent très bien se faire par Zoom. Alors évidemment, il y a des problèmes de décalage horaire, mais enfin, on peut s'organiser. Donc, il y a tout à parier qu'elles seront plus sélectives dans leur voyage demain. Or, les entreprises sont bien sûr des contributeurs importants pour les compagnies aériennes parce que la part des billets en business class est plus importante que dans le grand public, même si ça avait diminué dans les dernières années. Donc, c'était une source de revenus qui risque de diminuer pour les compagnies demain. C'est pas la seule. En réalité, dans les dernières années, la moitié des business class était le fait de touristes.
Ah oui?
Oui, à des prix qui souvent étaient intermédiaires entre l'économie et la business professionnelle. C'est des gens qui veulent se faire plaisir, qui ont un peu d'argent quand même, hein, parce que c'est assez cher. Mais en tout cas, très probablement, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, on avait mis en place des avions qui étaient remplis de classe business, notamment pour faire des liaisons transatlantiques.
Paris-New York, oui.
Paris-New York ou Londres-New York, ça, c'est probablement fini. Pour les particuliers, on peut penser que la demande changera moins, parce que le client cherche l'expérience du voyage. Et ça, Mais ça n'est pas transmissible par Zoom. Hein. Il faut y être, il faut rencontrer les gens, sentir les odeurs, voir les choses. C'est non substituable. Bon, alors, ce qui, en revanche, va peser sur la demande à la fois des entreprises et des particuliers, c'est la pression environnementale. Elle n'est pas nouvelle. Elle avait débuté, vous vous en souvenez, un petit peu avant l'épidémie, avec cette espèce de mouvement contre l'avion, un peu paradoxal, quand on voit que l'aviation ne représente qu'une fraction des émissions mondiales de carbone. Alors, c'est vrai que quand c'est rapporté au kilomètre parcouru, c'est bien davantage. Et de ce point de vue-là, on a vu Greta Thunberg qui voyageait en bateau, en train. Et ça a fait beaucoup de bruit. Et malgré tout, il y a une tendance de fond. Elle sera accompagnée en France par la décision gouvernementale qui a sorti son plan de soutien Air France de la diminution du nombre de lignes intérieures, notamment là où le train représente une alternative en termes de temps qui est tout à fait possible. Mais au sortir de cette crise, il y a évidemment un climat qui a un peu changé. L'avion est vu comme une grosse bête polluante. Donc il va faire des progrès au plan technologique, mais dans l'intervalle, ça va quand même un peu peser sur la demande. Et surtout, l'avion se trouve face à deux compétiteurs plus musclés qu'avant. Un, le train, musclé par la pression gouvernementale, et deux, la 5G, hein, les nouvelles technologies et tous les outils qui lui sont associés qui permettent justement les réunions à distance.
Alors comment les compagnies aériennes vont-elles réagir face à cette situation qui est complètement inédite dans l'histoire de l'aviation d'ailleurs ?
Inédite parce que bien sûr 2020 aura été l'année noire, bien pire que 2009 qui avait déjà été très sévère. On estime qu'il pourrait y avoir 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires en moins pour l'ensemble des compagnies. Selon l'Association internationale des transporteurs aériens, 2020 se solderait par une perte de 130 milliards, perte comptable de 130 milliards, perte d'exploitation, pardon, de 130 milliards cette année. Et y aurait encore des pertes substantielles en 2021, ça serait 40 milliards de dollars. Parce que on peut penser que même si le vaccin arrive, les frontières, au moins pour les longues distances, resteront fermées. Pour ce qui concerne Air France, notre compagnie nationale, sur les trois premiers trimestres de 2020, ce sont 6 milliards d'euros de pertes, considérables. Air France a d'ailleurs fait appel à des prêts, pour partie des prêts de l'État, pour partie des prêts bancaires, mais garantis par l'État, 7 milliards d'euros. Et 4 à 5 milliards supplémentaires de recapitalisation sont prévus au printemps. Ils ont été provisionnés par le gouvernement. Pour Air France, la situation est d'autant plus compliquée que la crise mondiale se double d'une crise de positionnement et d'une crise de gouvernance. Il faut se souvenir qu'elle s'était rapprochée de KLM il y a une vingtaine d'années.
Néerlandais,
le transporteur néerlandais, et que les relations avec eux sont difficiles. En fait, c'est cette sorte de fusion un peu bizarre de la fin des années 90, début des années 2000, où on disait « on ne fusionne pas ». On s'associe, c'est exactement la même chose que Renault-Nissan. On se rapproche, on mutualise un certain nombre de choses, mais pour autant, nous restons deux entités. Donc, deux entités, bah, ça va pas. Quand il n'y a pas de patron, chacun tire de son côté. D'autant que pour le transport aérien, encore davantage que pour l'automobile, les États sont très présents pour des raisons de souveraineté. Un transporteur national, c'est un outil de l'État aussi, ou un outil de souveraineté en tout cas. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui que l'État français remonte au capital. Aujourd'hui, État français et État néerlandais sont à parité, à 14%. L'État français a l'intention de monter juste en dessous de 30%, en dessous de 30% pour ne pas déclencher une OPA et ne pas nationaliser l'entreprise, mais suffisamment pour devenir l'actionnaire principal et tenir le gouvernail. L'objectif, bah, c'est de repositionner Air France sur le haut de gamme, parce que c'est là où les marges sont meilleures et où on estime que les capacités de résistance à la crise sont les meilleures. Restera bien sûr toujours la question sociale, hein, qui agite beaucoup l'entreprise Air France, qui a d'ailleurs été un des ferments de discorde avec KLM, qui avait l'impression que les Français faisaient la grève tout le temps, impression qui n'était pas complètement imméritée. Le bon côté de la crise, pour ce qui concerne les pilotes, c'est que cette fameuse pénurie mondiale de pilotes, bah, c'est fini. Hein. Et c'était l'un des éléments qui avait poussé les pilotes français les plus radicaux, mais enfin c'est eux qui étaient représentés au niveau du SNPL, qui était le syndicat essentiel, eh bien pour le coup, là, le rapport de force ne sera plus le même, donc on peut penser que les pilotes seront plus sages et permettront une réorganisation de l'entreprise plus conforme aux équilibres économiques d'aujourd'hui.
Alors, il y a aussi une alerte sur les aéroports hein, dans ce paysage dévasté. Hein. On dit qu'il y a près de 200 aéroports régionaux qui pourraient disparaître en Europe. Et les plus gros aéroports hein, sont également menacés financièrement. Est-ce que là, ça va bouleverser toutes les économies régionales ?
On peut penser que les pouvoirs publics, et notamment les pouvoirs publics régionaux vont quand même empêcher la disparition des aéroports. Ils les aident déjà beaucoup, hein,
ouais, avec les chambres de commerce.
Les chambres de commerce, qui d'ailleurs en sont propriétaires bien souvent, qui les subventionnent, ou qui subventionnent, c'est un peu la même chose, les compagnies aériennes lorsqu'elles viennent justement atterrir dans ces métropoles de région. Donc c'est une façon de soutenir l'économie locale, quelquefois d'ailleurs au détriment justement d'autres moyens de transport, ou d'ailleurs de la concurrence aérienne. C'est vrai que les low cost sont arrivés en France, justement dans les aéroports régionaux, souvent comme ça, subventionnés par les chambres de commerce. On peut penser que ça va continuer, mais c'est vrai que cette crise va quand même poser un problème au modèle économique des aéroports, qui est en gros reposé sur la croissance perpétuelle du trafic. Bon, c'est fini pour au moins 10 ans, enfin, ou disons au moins 5 ans, et peut-être 10 ans. Donc, il va falloir qu'ils trouvent autre chose. Bien sûr, il y a les ressources commerciales, hein. Après tout, un aéroport, pour une grande part de son activité, c'est un grand centre commercial qui vend du parfum, de luxe. Mais aussi, la question des redevances va se poser, c'est-à-dire des sommes qui sont facturées aux compagnies aériennes pour atterrir, et indirectement aux passagers. Hein, ça, c'est, il est probable quand même que l'économie aéroportuaire soit obligée de remonter un peu les tarifs. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est encadré par un régulateur. À la faveur de la crise, elle demande l'aménagement des contraintes.
Et alors, pour les passagers que nous sommes tous ou que nous rêvons d'être, hein, aujourd'hui, à quoi devons-nous nous attendre, François ?
Probablement des billets plus cher à cause de tout ça, hein, parce que justement les hautes contributions des entreprises seront moins nombreuses, donc ben voilà, le prix de l'avion il va pas changer, surtout si on le modernise pour avoir des moteurs qui sont moins polluants. Vous savez que Safran a entrepris là aussi, hein, c'était des choses qui étaient en gestation depuis longtemps, mais qui devrait être accéléré par la crise, a entrepris de rendre ses moteurs d'avion plus propres. Peut-être une classe éco un peu meilleure, mais en tout cas plus chère. Des avions plus petits. On voit que maintenant, les fameux monocouloirs, hein, notamment l'Airbus 320 ou 321, a une autonomie très importante. Et on se rend compte que il y a 20 ans, on imaginait les grandes autoroutes du ciel sur la liaison transatlantique. C'est pour ça que la 380 a été construite. Et puis à partir des grands hubs, redistribution dans les aéroports régionaux. En fait, les passagers n'aiment pas tellement parce qu'il y a des transactions très lourdes. Hein, on s'arrête 2 heures à l'aéroport, on repasse des contrôles quelquefois, c'est fatigant. Et finalement, c'est plutôt l'approche de Boeing qui, dès il y a 20 ans, disait non, on ne croit pas du tout à ça. Nous, on veut développer des avions qui sont peut-être plus petits mais qui permettent de faire du point à point, c'est-à-dire un Lyon-New York plutôt qu'un Lyon-Roissy-New York. Le passager préfère. Donc, on voit que cette tendance se développe et justement, hein, la crise sanitaire a donné l'occasion, si je puis dire, de mettre un point d'arrêt à la carrière de la 380, qui était un avion merveilleux, mais beaucoup trop coûteux et beaucoup trop consommateur d'énergie. Sur le plan pratique, là, pour le coup, on était habitué aux contrôles d'identité, on les a depuis longtemps, aux contrôles de sécurité, ils sont renforcés beaucoup après le 11 septembre 2001, et il va falloir ajouter les contrôles de santé.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL ainsi que sur toutes vos plateformes préférées.